Du roi remonta jusqu'au boulevard extérieur. Puis il redescendit le boulevard Malesherbes, qu'il se mit à suivre à pas lents. En passant devant un pâtissier, il aperçut des marrons glacés dans une coupe de cristal, et il pensa « Je vais en rapporter une livre pour Clotilde ». Il acheta un sac de ces fruits sucrés qu'elle aimait à la folie. À 4 heures, il était rentré pour attendre sa jeune maîtresse. Elle vint un peu en retard, parce que son mari était arrivé pour 8 jours. Elle demanda « Peux-tu venir dîner demain ? Il serait enchanté de te voir. » « Non, je dîne chez le patron. Nous avons un tas de combinaisons politiques et financières qui nous occupent. » Elle avait enlevé son chapeau. Elle ôtait maintenant son corsage qui la serrait trop. Il lui montra le sac sur la cheminée. « Je t'ai apporté des marrons glacés. » Elle battit des mains. « Quelle chance, comme tu es mignon !» Elle les prit, en goûta un et déclara « Ils sont délicieux. Je sens que je n'en laisserai pas un seul. » Puis elle ajouta en regardant Georges avec une gaieté sensuelle « Tu caresses donc tous mes vices ?» Elle mangeait lentement les marrons et jetait sans cesse un coup d'œil au fond du sac pour voir s'il en restait toujours. Elle dit « Tiens, assieds-toi dans le fauteuil. Je vais m'accroupir entre tes jambes pour grignoter mes bonbons. Je serai très bien. » Il sourit, s'assit et la prit entre ses cuisses ouvertes comme il tenait tout à l'heure Madame Walter. Elle levait la tête vers lui pour lui parler et disait la bouche pleine « Tu ne sais pas, mon chéri, j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé que nous faisions un grand voyage tous les deux sur un chameau. Il y avait 2 bosses, nous étions à cheval chacun sur une bosse et nous traversions le désert. Nous avions emporté des sandwichs dans un papier et du vin dans une bouteille et nous faisions la dinette sur nos bosses. Mais ça m'ennuyait parce que nous ne pouvions pas faire autre chose. Nous étions trop loin l'un de l'autre et moi, je voulais descendre. » Il répondit « Moi aussi, je veux descendre. » Il riait, s'amusant de l'histoire. Il la poussait à dire des bêtises, à bavarder, à raconter tous ses enfantillages, toutes ces niaiseries tendres que débitent les amoureux. Ces gamineries qu'il trouvait gentilles dans la bouche de Madame de Marelle l'auraient exaspérée dans celle de Madame Walter. Clotilde l'appelait aussi « Mon chéri, mon petit, mon chat ». Ces mots lui semblaient doux et caressants. Dit par l'autre tout à l'heure, il l'irritait et l'écœurait, car les paroles d'amour, qui sont toujours les mêmes, prennent le goût des lèvres dont elles sortent. Mais il pensait, tout en s'égayant de ses folies, aux 70 000 francs qu'il allait gagner, et brusquement il arrêta, avec 2 petits coups de doigt sur la tête, le verbiage de son ami. « Écoute, ma chatte, je vais te charger d'une commission pour ton mari. Dis-lui de ma part d'acheter demain pour 10 000 francs d'emprunt du Maroc, qui est à 72, et je lui promets qu'il aura gagné de 60 à 80 000 francs avant 3 mois. Recommande-lui le silence absolu. Dis-lui de ma part que l'expédition de Tanger est décidée et que l'État français va garantir la dette marocaine. Mais ne te coupe pas avec d'autres. C'est un secret d'État que je te confie là. » Elle l'écoutait sérieuse. Elle murmura « Je te remercie. Je préviendrai mon mari dès ce soir. Tu peux compter sur lui, il ne parlera pas. C'est un homme très sûr, il n'y a aucun danger. » Mais elle avait mangé tous les marrons. Elle écrasa le sac entre ses mains et le jeta dans la cheminée. Puis elle dit « Allons-nous coucher ?» Et sans se lever, elle commença à déboutonner le gilet de Georges. Tout à coup, elle s'arrêta et tirant entre 2 doigts un long cheveu pris dans une boutonnière, elle se mit à rire. « Tiens, tu as emporté un cheveu de Madeleine ? En voilà un mari fidèle. » Puis, redevenue sérieuse, elle examina longuement sur sa main l'imperceptible fil qu'elle avait trouvé et elle murmura « Ce n'est pas de Madeleine, il est brun. » Il sourit, il vient probablement de la femme de chambre, mais elle inspectait le gilet avec une attention de policier et elle cueillit un second cheveu enroulé autour d'un bouton. Puis elle en aperçut un troisième et pâlit, tremblant un peu, elle s'écria « Tu as couché avec une femme qui t'a mis des cheveux à tous tes boutons. » Il s'étonnait, il balbutiait. « Mais non, tu es folle !» Soudain, il se rappela, comprit, se troubla d'abord, puis nia en ricanant, pas fâché au fond qu'elle le soupçonna d'avoir des bonnes fortunes. Elle cherchait toujours et toujours trouver des cheveux qu'elle déroulait d'un mouvement rapide et jetait ensuite sur le tapis. Elle avait deviné, avec son instinct rusé de femme, et elle balbutiait, furieuse, rageant et prête à pleurer. « Elle t'aime, celle-là. Elle a voulu te faire emporter quelque chose d'elle. Oh, que tu es traître !» Mais elle poussa un cri strident, de joie nerveuse. « Ah, c'est une vieille. Voilà un cheveu blanc, ah. Tu prends des vieilles femmes, maintenant. Est-ce qu'elle te paie? Dis, est-ce qu'elle te paie? Ah, tu en es aux vieilles femmes. Alors, tu n'as plus besoin de moi. Garde l'autre. » Elle se leva, courut à son corsage jeté sur une chaise et elle le remit rapidement. Il voulait la retenir, honteux et balbutiant. « Mais non, Clos, tu es stupide. Je ne sais pas ce que c'est. Écoute, reste. Voyons, reste. » Elle répétait. « Garde ta vieille femme, garde-la. Fais-toi faire une bague avec ses cheveux blancs. Tu en as assez pour ça. » Avec des gestes brusques et promptes, elle s'était habillée, recoiffée et voilée. Et comme il voulait la saisir, elle lui lança à toute volée un soufflet par la figure. Pendant qu'il demeurait étourdi, elle ouvrit la porte et s'enfuit. Dès qu'il fut seul, une rage furieuse le saisit contre cette vieille rosse de mère Walter. Ah, il allait l'envoyer coucher, celle-là, et durement. Il bassina avec de l'eau sa joue rouge, puis il sortit à son tour en méditant sa vengeance. Cette fois, il ne pardonnerait point. Ah, mais non! Il descendit jusqu'au boulevard et, flânant, s'arrêta devant la boutique d'un bijoutier pour regarder un chronomètre dont il avait envie depuis longtemps et qui valait 1800 francs. Il pensa tout à coup, avec une secousse de joie au cœur, « Si je gagne mes 70 000 francs, je pourrais me le payer. » Et il se mit à rêver à toutes les choses qu'il ferait avec ses 70 000 francs. D'abord, il serait nommé député. Et puis, il achèterait son chronomètre, et puis il jouerait à la bourse, et puis encore. Il ne voulait pas entrer au journal, préférant causer avec Madeleine avant de revoir Walter et d'écrire son article. Et il se mit en route pour revenir chez lui. Il atteignait la rue de Rouault quand il s'arrêta net. Il avait oublié de prendre des nouvelles du comte de Vaudrec qui demeurait chaussée d'Antin. Il revint donc, flânant toujours, pensant à mille choses, dans une songerie heureuse, à des choses douces, à des choses bonnes, à la fortune prochaine et aussi à cette crapule de la roche et à cette vieille teigne de patronne. Il ne s'inquiétait point d'ailleurs de la colère de Clotilde, sachant bien qu'elle pardonnait vite. Quand il demanda au concierge de la maison où demeurait le comte de Vaudrec, « Comment va, monsieur de Vaudrec ? On m'a appris qu'il était souffrant ces jours derniers. » L'homme répondit, « Monsieur le comte est très mal, monsieur. On croit qu'il ne passera pas la nuit. La goutte est remontée au cœur. » Du roi demeura tellement effaré qu'il ne savait plus ce qu'il devait faire. Vaudrec mourant. Des idées confuses passaient en lui, nombreuses, troublantes, qu'il n'osait point s'avouer à lui-même. Il balbutia « Merci, je reviendrai », sans comprendre ce qu'il disait. Puis il sauta dans un fiacre et se fit conduire chez lui. Sa femme était rentrée. Il pénétra dans sa chambre essoufflé et lui annonça tout de suite « Tu ne sais pas ? Vaudrec est mourant. » Elle était assise et lisait une lettre. Elle leva les yeux et trois fois de suite répéta « Hein ?» Tu dis ? Je te dis que Vaudrec est mourant d'une attaque de goutte remontée au cœur. » Puis il ajouta, « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Elle s'était dressée, livide, les joues secouées d'un tremblement nerveux. Puis elle se mit à pleurer affreusement, en cachant sa figure dans ses mains. Elle demeurait debout, secouée par des sanglots, déchirée par le chagrin. Mais soudain, elle dompta sa douleur et, s'essuyant les yeux, « J'y vais. Ne t'occupe pas de moi. Je ne sais pas à quelle heure je reviendrai. Ne m'attends point. » Il répondit, « Très bien. Va. » Ils se serrèrent la main et elle partit si vite qu'elle oublia de prendre ses gants. Georges, ayant dîné seul, se mit à écrire son article. Il le fit exactement selon les intentions du ministre, laissant entendre au lecteur que l'expédition du Maroc n'aurait pas lieu. Puis il le porta au journal, causa quelques instants avec le patron et repartit en fumant, le cœur léger sans qu'il comprît pourquoi. Sa femme n'était pas rentrée. Il se coucha et s'endormit. Madeleine revint vers minuit. Georges, réveillé brusquement, s'était assis dans son lit. Il demanda « Eh bien ?» Il ne l'avait jamais vue si pâle et si émue. Elle murmura « Il est mort. » « Ah, et il ne t'a rien dit ?»« Rien. Il avait perdu connaissance quand je suis arrivé. » Georges songeait. Des questions lui venaient aux lèvres qu'il n'osait point faire. « Couche-toi, » dit-il. Elle se déshabilla rapidement, puis se glissa auprès de lui. Il reprit. Avait-il des parents à son lit de mort ? Rien qu'un neveu. Ah, le voyait-il souvent, ce neveu ? Jamais. Il ne s'était point rencontré depuis 10 ans. Avait-il d'autres parents ? Non, je ne crois pas. Alors, c'est ce neveu qui doit hériter ? Je ne sais pas. Il est très riche, Vaudrec. Oui, très riche. Sais-tu ce qu'il avait à peu près ? Non, pas au juste. 1 ou 2 millions, peut-être. Il ne dit plus rien. Elle souffla la bougie, et ils demeurèrent étendus côte à côte dans la nuit, silencieux, éveillés et songeants. Il n'avait plus envie de dormir. Il trouvait maigre maintenant les 70 000 francs promis par Madame Walter. Soudain, il crut que Madeleine pleurait. Il demanda pour s'en assurer « Dors-tu ?» Non. Elle avait la voix mouillée et tremblante. Il reprit « J'ai oublié de te dire tantôt que ton ministre nous a fichu dedans. » « Comment ça ?» Et il lui conta tout au long, avec tous les détails, la combinaison préparée entre La Roche et Walter. Quand il eut fini, elle demanda « Comment sais-tu ça ?» Il répondit « Tu me permettras de ne point te le dire. Tu as tes procédés d'information que je ne pénètre point. J'ai les miens que je désire garder. Je réponds en tout cas de l'exactitude de mes renseignements. » Alors elle murmura « Oui, c'est possible. Je me doutais qu'il faisait quelque chose sans nous. » Mais Georges, que le sommeil ne gagnait pas, s'était rapproché de sa femme et doucement, et lui baisa l'oreille. Elle le repoussa avec vivacité. « Je t'en prie, laisse-moi tranquille, n'est-ce pas ? Je ne suis point d'humeur à batifoler. » Il se retourna, résigné, vers le mur, et, ayant fermé les yeux, il finit par s'endormir.